Un journal présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Le taux de grévistes au plus bas à la SNCF, moins de 5% aujourd'hui, mais le mouvement contre la réforme des retraites est loin d'être terminé malgré le retrait de l'âge pivot. Nous ferons le point avec Anne-Laure Jumet. Par ailleurs, le gouvernement tente de séduire les enseignants avec des augmentations de salaire. Les négociations viennent de débuter. Les précisions d'Hakim Kasmi. Les pays africains veulent-ils encore de la France pour les défendre face à la menace djihadiste? Emmanuel Macron pose la question de confiance au président du G5 Sahel, réuni aujourd'hui à Pau, un sommet suivi par Louise Baudet. Benoît XVI défend le célibat des prêtres au moment où le pape François envisage d'assouplir la doctrine. Le pape émérite publie un livre avec le cardinal Robert Sarah, l'une des principales figures du camp conservateur au Vatican. Bruce de Galzin nous dressera le portrait du cardinal. Cardinal guinéen. Simple repli tactique ou véritable concession aux grévistes, chacun analyse à sa manière le geste d'Édouard Philippe qui a retiré l'âge pivot de la réforme des retraites. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, a aussitôt salué une victoire des syndicats réformistes. Au contraire, les organisations contestataires, à commencer par la CGT, préfèrent y voir une manœuvre du Premier ministre. Édouard Philippe qui a promis de prendre ses responsabilités si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord sur le financement de la réforme. Bonsoir. Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Au 40e jour de grève, la sortie de crise reste incertaine, même si la mobilisation fléchit nettement à la SNCF.
Oui, ce soir, la direction de l'entreprise ferroviaire souligne que l'amélioration du trafic se confirme avec 8 TGV sur 10 en circulation et 7 Transiliens sur 10. Ce matin, le taux de grévistes mesuré par l'entreprise est donc tombé à un nouveau plus bas, à 4,3%. Moins d'un conducteur sur 4 avait cessé le travail. Du côté des syndicats de cheminots, on veut toutefois rester dans l'action. Des AG ont voté ce matin la reconduction de la grève, notamment à Paris et en Ile-de-France. Mobilisation aussi chez les réformistes, CFDT et UNSA, alors que leurs confédérations ont pourtant salué le retrait de l'âge pivot. La CFDT Cheminots, par exemple, appelle ses troupes à un temps fort demain, alors qu'elle rencontre dans l'après-midi la direction des ressources humaines de la SNCF. Elle veut obtenir davantage de concessions pour les agents au statut qui seront concernés par le futur régime. L'UNSA RATP appelle quant à elle à la poursuite de la grève jusqu'à jeudi au moins. Alors du côté des avocats, on ne constate pas d'essoufflement. Au contraire, après une rencontre ce matin avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, la présidente du Conseil national des barreaux, a indiqué qu'il n'y avait pas eu de nouvelles propositions et qu'en l'état, les mots d'ordre de grève étaient maintenus. Autre mobilisation nouvelle, celle-là depuis ce matin, celle des salariés de la Banque de France à l'appel de la CGT sur deux sites, à Lille et à la Courneuve. Aucun risque toutefois de pénurie dans les distributeurs de billets, affirme un dirigeant de l'institution. Et puis du côté des raffineries, la grève continue ou reprend à partir de demain selon les sites. Mais le délégué CGT du groupe Total me le confiait à l'instant, on est encore en manque d'un mouvement massif et la semaine sera décisive. Si la mobilisation ne décolle pas, on n'exclut pas d'arrêter la grève. Tout va en effet se jouer lors de ces trois nouvelles journées d'action prévues cette semaine, demain, mercredi et jeudi. Jeudi étant une sixième journée nationale de mobilisation, alors que la journée de samedi a montré un net essoufflement avec entre 149 000 et 500 000 manifestants dans toute la France.
Anne-Laure Jumet, merci. Alors, dans sa volonté de désamorcer le conflit, le gouvernement multiplie les négociations catégorielles. Aujourd'hui, les syndicats d'enseignants ont rendez-vous avec le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Jean-Michel Blanquer a promis aux enseignants une revalorisation salariale conséquente et cela pour amortir les effets négatifs de la réforme des retraites dans l'éducation.
Oui, Jean-Michel Blanquer a beau garantir aux enseignants qu'ils garderont le même niveau de pension qu'actuellement grâce à une hausse des salaires sous la forme de primes, notamment pour ceux qui sont en début de carrière. Avec une enveloppe globale de 10 milliards d'euros répartie jusqu'en 2037, les syndicats ne sont pas du tout rassurés, d'autant que le ministre de l'Éducation risque de leur demander en contrepartie de travailler plus. Frédéric Rollet, la secrétaire générale du SNES-FSU, entend bien le faire sortir du bois sur ce sujet très sensible chez les enseignants.
C'est que d'obliger les profs à remplacer ceux qui sont absents parce que l'institution est incapable de recruter suffisamment pour avoir des remplaçants et qu'on sait que c'est dramatique dans certains endroits, notamment par exemple en Seine-Saint-Denis. Mais on sait aussi que les profs ne peuvent pas remplacer au pied levé comme ça pendant une semaine un collègue absent. D'abord, il y aurait d'énormes problèmes d'emploi du temps, de salle, et puis parce que, encore une fois, quand nous avons des classes, ça veut dire derrière tout un travail et qu'il ne s'agit pas d'ajouter du travail à ce qui est déjà très lourd.
Autre piste, les formations qui pourraient ne plus se passer pendant les heures de cours, mais uniquement pendant les vacances scolaires. Les vacances qui, elles aussi, pourraient être réduites. Sur ce point explosif, Jean-Michel Blanquer n'a pas encore osé officiellement ouvrir la boîte de Pandore, indiquant seulement qu'il n'y avait pas de tabou et parlant juste, je cite, de professeurs du XXIe siècle.
Hakim Kasmi, merci. À Lyon, la mobilisation des avocats a entraîné la suspension du procès de l'ancien prêtre Bernard Prénat, qui doit être jugé pour agression sexuelle. En revanche, ce mouvement des avocats n'a pas perturbé le procès de deux filières djihadistes devant la cour d'assises spéciale de Paris. Les départs en Syrie s'étaient multipliés entre la fin 2014 et le début 2015, au moment des attentats contre Charlie et l'Hyper Kacher. Le procès entre dans sa deuxième semaine et la cour s'est focalisée aujourd'hui sur le départ d'une famille entière, un couple et ses trois enfants mineurs originaires de la région parisienne, un seul a survécu. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm.
La photo d'un petit garçon aux yeux noirs, t-shirt bleu et boucles brunes s'affiche sur l'écran de la salle d'audience. Photo expédiée par son père depuis la Syrie. Il est le seul à être rentré vivant du voyage, retrouvé par hasard dans un orphelinat de Bagdad après avoir fui le bombardement de Mossoul où sa mère, son frère et sa petite sœur ont sans doute péri. Un départ que les grands-parents, retraités désormais en charge de ce jeune garçon de 13 ans, n'ont pas vu venir. À l'école, il apprend bien, confie le grand-père, visage lourd, voix à peine audible et économie de mots. Il a été traumatisé, ajoute sa femme, mais on discute avec lui et il n'a pas fait partie de ses enfants soldats. Aujourd'hui, elle parle encore de sa gentille petite belle-fille qu'elle adorait, mais j'ai du mal à accepter qu'ils aient emmené les enfants. Je ne leur pardonnerai jamais ça, renchérit son mari, c'est ce qui a tué mon autre fils. Cancer de l'estomac, toute la famille est persuadée que cette tragique histoire a provoqué la maladie. Je n'oublierai jamais ces enfants, pleure encore leur grande-tante à la barre des témoins. Seul, un homme se raidit aux questions de l'avocat général. C'est lui qui a accompagné la famille à l'aéroport le 3 janvier 2015. Il y a des gens inconsolables parce que personne n'a prévenu, insiste le magistrat. La petite fille avait 3 ans. Le témoin se ferme. C'est pas à moi d'empêcher ou de dénoncer. Il est parti avec ses convictions, je ne suis pas responsable de ses actes. Les grands-parents, eux, ont déjà quitté la salle d'audience.
Florence Turm depuis la cour d'assises spéciale de Paris. Le policier renversé par un fourgon ce week-end à Bron a succombé à ses blessures. Le parquet de Lyon vient de l'annoncer. Le fonctionnaire avait 45 ans. Il avait tenté d'arrêter un fourgon occupé par des individus qui venaient de voler des marchandises dans un camion. Les suspects ont forcé le barrage policier. Seul l'un d'entre eux a pu être interpellé. Crime sexuel, qu'est-ce qui crée le sentiment d'impunité? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin à ses invités dans le temps du débat, juste après ce journal. Un sentiment d'impunité que l'on retrouve dans l'affaire Gabriel Matzneff ou bien dans l'affaire du père Prénat. Les pays du Sahel font-ils toujours confiance à la France pour lutter contre les djihadistes? C'est la question qu'Emmanuel Macron entend poser aujourd'hui à Pau à ses 5 invités, les présidents du Tchad, du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de la Mauritanie. Ce sommet du G5 Sahel qui intervient à un moment où les attaques djihadistes se multiplient dans la région sahélienne. Il se déroule à Pau, siège du 5e régiment d'hélicoptères de combat. 7 des 13 soldats français tués en opération au Mali en décembre appartenaient à ce régiment. Rappelons que la France a déployé 4500 militaires au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. Louise Baudet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous suivez ce sommet à Pau où officiellement, du moins, les pays africains comptent toujours sur Barkhane pour les défendre.
Oui, c'est en tout cas la confirmation attendue par Emmanuel Macron. Oui, les soldats français sont les bienvenus au Sahel et agissent à la demande des pays concernés. Façon de contrer les diatribes anti-françaises qui gagnent du terrain à Ouagadougou, Bamako et sur les réseaux sociaux où l'on fustige une armée d'occupation. Procès en néocolonialisme qui exaspère Emmanuel Macron. Le chef de l'État français a fustigé les élites politiques qui surfent sur la vague électoralement porteuse. Il a réclamé un sommet de clarification, convocation d'abord jugée insultante par ses homologues africains, mais les revers cinglants sur le terrain ont contribué à calmer les esprits. Ainsi, hier, le Niger a annoncé le plus lourd bilan jamais subi par son armée, 89 soldats tués dans l'attaque d'un camp jeudi dernier. Les pays du G5 Sahel devraient donc répéter ce soir que la France intervient bien à leur demande.
Louise, le sommet de Pau vise aussi à revoir le dispositif opérationnel et cela afin d'inverser le rapport de force face aux groupes djihadistes.
Effectivement, malgré 6 ans de présence française ininterrompue, la menace a essaimé et les attaques se sont intensifiées. Pour tenter d'enrayer le processus, la France entend resserrer la zone d'intervention de Barkhane sur le secteur prioritaire des 3 frontières entre Mali, Burkina et Niger, là où se concentrent depuis 1 an les attaques les plus meurtrières. Autre enjeu, convaincre les pays européens de participer à l'effort au moment où les États-Unis annoncent une réduction de leur présence militaire en Afrique. Le problème, c'est que la menace est protéiforme, qu'elle se nourrit de tensions communautaires et économiques et surtout de la défaillance des États, corruption, impunité des forces de l'ordre, aide au développement détourné. Tout cela alimente la défiance des populations. Restaurer l'état de droit, c'est l'autre message adressé ce soir par Emmanuel Macron à ses homologues africains. En arrière-plan, des chaleureuses poignées de main et accolades échangées devant le château de Pau.
Louise Baudet en direct de Pau, merci. L'espoir d'un retour à la paix en Libye passe aujourd'hui par Moscou. C'est dans la capitale russe que les deux principaux chefs de guerre libyens doivent signer un cessez-le-feu. D'un côté, le chef du gouvernement reconnu par l'ONU, Fayez al-Sarraj. De l'autre, le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui a lancé une offensive contre la capitale Tripoli tenue par son rival. Nous sommes en direct de Moscou avec Claude Bruyot, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Claude, où en est-on dans la signature de ce cessez-le-feu en Libye sous l'égide de la Russie ?
Alors pour l'instant, ce que l'on sait Stanislas, c'est que si Fayez al-Sarraj a signé l'accord de cessez-le-feu, donc dès ce soir, le maréchal Haftar lui a demandé un temps de réflexion jusqu'à demain. Les deux protagonistes sont donc à Moscou pour discuter des modalités de ce cessez-le-feu, ce qui en quoi n'est déjà pas rien, alors que ils sont en guerre tout de même depuis des années. Mais l'objectif était aussi de préparer, à l'occasion de rencontres séparées, avec alors d'un côté des responsables russes, de l'autre des émissaires turcs, des pourparlers de paix, dans la perspective du sommet de Berlin dimanche. Un premier cadrage salué d'ailleurs par Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, pour qui il y a eu progrès aujourd'hui à Moscou. Un cadrage destiné en quelque sorte à faciliter la désescalade sur le terrain en espérant que les efforts diplomatiques russes soulignés par les Occidentaux ne seront pas démentis par les armes d'ici la fin de semaine.
Question Claude, comment la préparation d'un accord de paix est-il possible à Moscou quand on sait que la Russie soutient un camp, celui du maréchal Haftar, et la Turquie, un autre camp, celui de Fayez al-Sarraj?
Alors ça, c'est toute la force de persuasion de Vladimir Poutine qui apparaît une fois de plus comme l'influenceur numéro un, en quelque sorte, sur le dossier syrien également. Il y a 5 jours, le président russe a d'abord commencé par se rendre à Istanbul pour convaincre Erdogan, son homologue turc, de copiloter un cessez-le-feu en Libye. Ensuite, Vladimir Poutine a affirmé ce week-end, devant Angela Merkel, qu'il recevait à Moscou, avec beaucoup d'aplomb, que la Russie ne soutient aucun camp, que les Russes qui se trouvent aux côtés du maréchal Haftar, en l'occurrence les centaines de paramilitaires du groupe Wagner, n'avaient aucun mandat et qu'ils ne recevaient aucun subside de l'État. Enfin, le maître du Kremlin s'est ensuite laissé de l'espace aux autres partis, notamment la Turquie, pour parvenir à ses fins. En clair, être considéré comme le parrain du processus, quitte à laisser les Occidentaux mettre la touche finale.
Claude de Bruyot, correspondant de Radio France en direct de Moscou. Merci. En Iran, la seule sportive iranienne médaillée olympique a décidé de fuir son pays. Kimia Alizadeh est une championne d'art martial. Elle a choisi de reprendre sa liberté pour dénoncer la répression orchestrée par le régime des Mollahs. Kimia Alizadeh annonce sur les réseaux sociaux être partie en Europe pour ne plus être un instrument de propagande. Cédric Guillou.
Kimia Alizadeh a 21 ans. Elle avait fait parler d'elle il y a près de 4 ans maintenant en obtenant la médaille de bronze en taekwondo aux Jeux Olympiques de Rio. Elle était devenue la première femme iranienne médaillée olympique. Samedi dernier, la jeune athlète a fui son pays, ce qui a suscité beaucoup d'émoi et d'inquiétude en Iran. Accompagnée de son mari, elle a pris la direction d'Eindhoven, aux Pays-Bas, où elle s'entraîne en vue des Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Et elle a également donné signe de vie sur les réseaux sociaux. Vu le message, le régime iranien aurait sans doute préféré qu'elle garde le silence. Sur son compte Instagram, Kimia Alizadeh dénonce l'hypocrisie, les mensonges, l'injustice du régime iranien qui, selon elle, ne fait qu'humilier les sportives. « Je suis l'une des millions de femmes opprimées en Iran. J'ai porté tout ce qu'ils m'ont dit de porter », faisant référence au port obligatoire du voile. « Aucune d'entre nous n'a d'importance pour eux. Nous ne sommes que des outils ». La probabilité que Kimia Alizadeh soit naturalisée néerlandaise avant l'ouverture des JO le 24 juillet est pratiquement nulle, mais elle pourrait demander à intégrer l'équipe olympique des réfugiés qui est apparue pour la première fois à Rio lors des Jeux Olympiques de 2016.
Cédric Guillou, merci. Carles Puigdemont est officiellement député européen. L'ancien président indépendantiste de la Catalogne a pris ses fonctions aujourd'hui au Parlement européen à Strasbourg. À ses côtés, son principal ministre Toni Comín. Les deux hommes avaient fui en Belgique pour échapper à la justice espagnole après l'échec de leur référendum d'autodétermination. Depuis, ils ont été élus eurodéputés et la Cour de justice européenne avait reconnu leur immunité parlementaire malgré le mandat d'arrêt européen délivré à leur encontre. Le reportage à Strasbourg d'Angélique Bouin.
Drapeau catalan et photo d'Oriol Junqueras, la bouche scotchée. Europe, réveille-toi, démocratie pour la Catalogne ou encore Puigdemont président, écrit sur des pancartes. Ils étaient quelques centaines de supporters venus attendre dans le froid l'ancien président en chantant. L'arrivée se veut solennelle. C'est un jour de célébration et de revendication, déclare l'actuel président de la Catalogne, Quim Torra, venu spécialement. Embrassade sous les caméras, puis conférence de presse en plein air. Carles Puigdemont savoure ce moment.
Un jour largement attendu est arrivé. On a dû supporter deux années d'énormes difficultés pour pouvoir faire de la politique. Ils ont dédié beaucoup d'efforts économiques, humains, techniques. Pour nous empêcher d'être ici, on est ici.
L'État et la justice espagnole dénoncés et le Parlement européen vivement interpellé, l'ex-président catalan demande justice pour celui qui a perdu son statut d'eurodéputé.
Si vraiment l'Union européenne était un espace d'union, de liberté et de droit, Oriol Junqueras devrait être assis entre nous.
Carles Puigdemont qui a précisé qu'il ne redoutait pas d'être arrêté par la police française en raison de son immunité. Immunité qui fait néanmoins l'objet d'une demande de suspension de la part d'un juge espagnol. Son passage à Strasbourg pourrait donc être de courte durée.
Angélique Bouin depuis le Parlement européen à Strasbourg. Quand Benoît XVI critique son successeur, le pape François, dans un livre à paraître mercredi, le pape émérite exhorte l'actuel souverain pontife à abandonner l'idée d'ordonner prêtre des hommes mariés. Le pape François réfléchit à cette possibilité pour les prêtres autochtones en Amazonie, une mesure destinée à répondre à la crise des vocations. Alors même si rien n'est décidé pour le moment, Benoît XVI refuse toute remise en cause du célibat des prêtres. Son livre « Des profondeurs de nos cœurs » a été rédigé avec le cardinal Robert Sarah. D'origine guinéenne, le cardinal Sarah incarne aujourd'hui la frange conservatrice du Vatican. Son portrait avec Bruce de Galzin.
Il y a à peine trois mois, dans le Corriere della Sera, le cardinal Robert Sarah se défendait de toute opposition au pape. Quiconque est contre le pape est ipso facto en dehors de l'Église, disait celui qui est aujourd'hui ministre de François, préfet de la Congrégation pour le culte divin. Il dénonçait alors l'erreur grossière, pour ne pas dire diabolique, de ceux qui voudraient l'opposer au pape. Et pourtant, ses prises de position sont bien plus dogmatiques que François. Pas d'exception sur le célibat des prêtres, alors que le pape se montre ouvert à quelques possibilités dans des contrées reculées. Sur l'immigration, le cardinal Sarah s'inquiète d'un Occident qui va disparaître, alors que François implore l'Europe d'accueillir les migrants. En France, le cardinal guinéen est apprécié des militants de la Manif pour tous, pour lequel il a clairement pris position. Au Vatican, il garde un poste important, le culte divin et la discipline des sacrements, contrairement à certains cardinaux qui ont été placardisés par François, car le cardinal Sarah est proche de Benoît XVI, qui l'a créé cardinal. Il avait été nommé évêque par Jean-Paul II à 34 ans, devenant le plus jeune évêque du monde. Avant tout mystique et conservateur, il n'est pas du tout politique, mais très apprécié de ceux qui veulent changer de pas.
Bruce de Galzin, correspondant à Rome. On termine ce journal avec la sélection des films retenus pour les Oscars le 9 février prochain à Hollywood. Sans surprise, Joker, le film de Todd Phillips porté par Joaquin Phoenix, arrive en tête des nominations. Côté français, Les Misérables de Lajli sont en lice pour l'Oscar du meilleur film étranger. Loïc Piala nous appelle de Los Angeles.
Suspense garanti pour la 92e cérémonie des Oscars. 11 nominations pour Joker, c'est une de plus seulement que Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et 1917 de Sam Mendes. Les deux films ont reçu un Golden Globe majeur la semaine dernière. The Irishman de Martin Scorsese récolte également 10 nominations. Netflix, qui a dépensé une fortune sur le film, peut bomber le torse. La firme de la Silicon Valley obtient plus de 20 nominations avec l'ensemble de ses productions, notamment deux documentaires et deux films d'animation. L'un de ces films, c'est J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Le réalisateur fera partie d'une belle délégation française à Hollywood le 9 février prochain. Le court-métrage d'animation mémorable est nommé, ainsi qu'Alexandre Desplat pour la musique des filles du Dr March et bien sûr Les Misérables de Lajli pour l'Oscar du meilleur film étranger. Dans cette catégorie, Parasite part largement favori, sauf que le long-métrage sud-coréen est nommé 6 fois en tout, y compris dans la catégorie reine du meilleur film. Difficile de l'imaginer gagner à la fois l'Oscar du meilleur film étranger et du meilleur film tout court. De quoi donner des raisons d'espérer aux Misérables dans une année où tout paraît possible en termes de palmarès.
Loïc Piala, merci. Un mot du temps demain, pluvieux et venteux sur une bonne partie de la moitié nord. 3 départements sont en vigilance orange, vague, submersion. Le Finistère, le Morbihan et la Loire-Atlantique. Ailleurs, le soleil finira par s'imposer. Température minimale comprise entre 0 et 10 degrés du nord au sud. Les maximales évolueront entre 9 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.